Bonjour tout le monde. Ça va bien? C'est la fête des mères ce matin. Elle est belle ma cravate, hein? Ce matin, ma femme m'a presque pas laissé venir. Elle voulait pas que je la mette. Elle la trouve pas belle. Mais ce matin, ma cravate, je pouvais pas acheter des fleurs à toutes les mamans. Donc ce matin, mon bouquet, pour vous les mères, c'est ma cravate. Hein? Fait que là, j'ai mis une belle chemise blanche pour qu'elle sorte. Pour que vous la voyez, la cravate. Vous pouvez pas passer à côté. Hein? Donc, ce matin, c'est la fête des mamans. Bonne fête! Bonne fête! Inquiétez-vous pas, ce matin, mon texte n'est pas dans Proverbe, chapitre 31. J'ai choisi autre chose. Qui dit fête des mères, dit une journée où est-ce qu'on honore nos mères. Je crois que c'est important de le faire. Je pense que les mamans le méritent. Hein? Leur vie va vite. Très, 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 très vite. Et puis, il y a une madame qui a fait quelque chose, qui doit être une mère, sûrement pour avoir fait ça. Elle a fait une chanson pour honorer les mamans. Vous voyez, tout tombe à matin. Pour honorer les mamans. Et puis, j'aimerais qu'on prenne le temps de la regarder. Non. Je veux que vous continuiez à m'écouter jusqu'à la fin. Donc, faites-vous-en pas. Est en anglais, OK? Mais je vais vous dire quelque chose, quelques éléments qui a dit, mais vous allez comprendre l'essentiel, même si vous ne comprenez pas l'anglais, OK? Allons-y.
Would say in a 24-hour period, and I have condensed it to 2 minutes and 55 seconds.
Pause une seconde. Ce qu'elle a dit, c'est que j'ai pris la vie normale d'une mère de 24 heures, et puis je l'ai condensée en 2 minutes et 50 secondes. OK? Puis voici ce que ça donne.
On your seatbelt, here we go. Out of bed, wash your face, brush your teeth, comb your sleepy head. Here's your clothes and your shoes, hear the words I said. Get up now, get up and make your bed. Are you hot, are you cold, are you wearing that? Where's your books and your lunch and your homework at? Grab your coat and your gloves and your scarf and hat. Don't forget, you gotta feed the cat. Eat your breakfast and extra cellos. It's the most important meal of all. Take a vitamin so you will grow up one day to be big and tough. You're doing good for your goddess, we'll be seeing you at 3-2. Don't forget, your piano lesson is this afternoon, so you just play, don't shovel. Choose lovely, but hurry, the bus is here. Be careful, come back here. Did you wash behind your ears? Play outside, don't play rough. Would you just play fair? Be polite, make a friend, don't forget to share. Work it out, wait your turn, never take a dare. Get along, don't make me come down there. Clean your room, fold your clothes, put your stuff away. Make your bed, do it now. Do we have all day? Were you born in a barn? Would you like some hay? Can you even hear a word I say? Answer! Get off the phone. Don't sit so close, turn it down. No texting at the table. No more computer time tonight. Your iPod's my iPod if you don't listen up. Where are you going now? Time do you think you're coming home? Say thank you, please excuse me, makes you welcome everywhere you roam. Appreciate my wisdom someday when you're older and you're grown. Can't wait till you have a couple little children of your own. You'll thank me for the counsel I gave you so willingly, but right now I thank you not to roll your eyes at me. Close your mouth when you chew, we'd appreciate. Take a bite, maybe two of the stuff you hate. Use your fork, do not burp, or I'll set you straight. Eat the food I put up on your plate. Get an A, get a door, don't be smart with me. Get a grip, get a hero, count to three. Get a job, get a life, get a PhD, get those. I don't care if you're grounded until 36. Get your story straight and tell the truth for once, for heaven's sake. If all your friends jumped off a cliff, would you jump too? If I said it once, I said at least a thousand times before that you're drawing back this way. And it must be your father's feeling. Look at me when I am talking, stand up straighter when you walk up the place. For everything and everything must be in place. Stop crying or I'll give you something real to cry about. Oh! Brush your teeth, brush your face, put your PJs on. Get in bed, get a hug, say a prayer with mom. Don't forget, I love you. And tomorrow we will do this all again, because tomorrow's a better day.
elle a du souffle. C'est une vraie maman. Tu comprends pourquoi je n'ai pas chanté? Ça passe-tu des affaires? Hein, j'en ai... toutes les paroles sont là. Y en a-tu? Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, faut que tu te lèves, elle répète deux fois, sors de ton lit, elle répète une troisième fois, lave-toi le visage, lave-toi les dents, fais ton lit, mets tes vêtements, mets tes souliers, écoute ce que je te dis, lève-toi, sors de ton lit, t'es-tu chaud, t'as-tu froid, pourquoi est-ce que tu portes ça? Ils sont où tes livres? Ils sont où tes là? Il est où ton lunch? Est-ce que tes devoirs sont faits? Puis là, elle continue, hein? Wow! Ça va vite! Ça n'en prend, hein? Une chance qu'on a 24 heures. Parce que ça serait juste en 2 minutes 50 tout le temps, là. Hein? Ça n'aurait pas de sens. Ça va vite. La vie va très, 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 très vite. Hein? Et puis, on spécifie pour les mères ce matin parce que c'est la fête des mères, mais ça va vite pour tout le monde. Aujourd'hui, avec le travail, les enfants, la garderie, les sorties, les obligations, les cours de telle chose pour un, telle affaire pour l'autre, ça finit pas. Ça va vite, 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 vite. Et puis, quand on dit vitesse, qu'est-ce qu'on dit aussi? Stress. Stress, 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 stress. Hein? Ce matin, je parlerai pas de Proverbe 31, mais je vais parler de quelque chose qui est omniprésent aujourd'hui dans notre culture. Le stress, l'anxiété, les peurs, s'inquiéter. Tu vois, quand on est enfant, on regarde notre mère et on dit, pfff, elle s'inquiète toujours pour rien. Hein? Vous souvenez, vous autres aussi, quand vous étiez jeunes, c'était la même chose. Voyons donc, maman, arrête de t'inquiéter, là. As-tu fini? C'est ce qu'a dit la madame, là, on roule les yeux. Arrête de rouler les yeux. Ben, oui. Arrête de t'inquiéter. Mais les mamans, est-ce qu'ils ont une raison? Est-ce que les gens ont des raisons valables de s'inquiéter? La vie aujourd'hui, c'est incroyable. Le stress, les enfants, est-ce qu'ils sont en sécurité? S'ils vont dehors, est-ce que les personnes qui sont avec vont réellement prendre soin? Est-ce qu'ils vont avoir un bon travail? Est-ce qu'ils vont faire des bons choix? Leur carrière, le mariage, c'est toutes des choses qui peuvent nous stresser par rapport à nos enfants. Après ça, la sécurité physique est une autre source de stress aussi. Il y a des gens qui ont peur, ils ont tellement peur d'avoir un accident de voiture, une peur de se briser quelque chose, la peur d'un écrasement d'avion. La sécurité physique, tout ce qui met ça en danger, les stress. Après ça, une autre chose qui peut stresser, c'est les décisions majeures. On traverse tous des événements, des moments dans nos vies où est-ce qu'on a des grosses décisions à prendre. Est-ce qu'il faut que je prenne cette nouvelle emploi? Est-ce qu'il faut qu'on vende la maison? Puis déménager? Les ados, souvent leur stress, les grandes décisions qu'ils ont à prendre, c'est quoi la carrière je vais choisir? Quel cours? Dans quelle ville? Puis toujours la grande question, c'est avec qui que je vais me marier? Après ça, une autre chose qui peut nous stresser, c'est nos finances. Surtout ces temps-ci, avec la crise économique. Avec tout ce qui se passe, j'ai entendu dire dernièrement que depuis les cinq derniers mois, toute l'avance qu'on a repris, on vient des perdre dans une semaine. L'économie, c'est une source de stress. Est-ce que je vais être capable de payer mes employés? Est-ce que je vais arriver un matin à ma job, puis on va me rentrer dans le bureau du boss, puis on va me dire, désolé, on n'est plus capable de te garder parce que on n'est plus capable de te payer? C'est des choses qui stressent. Mais est-ce que c'est des stress valables? Il me semble qu'on n'a pas à rouler les yeux sur ces choses-là. Parce que c'est des réalités de la vie. C'est des choses qui sont pas si simples. Constamment, ces choses-là viennent envahir nos pensées, viennent prendre notre concentration, On sent une pesanteur sur nous autres quand on pense à ces choses-là, une lourdeur. On a même des symptômes de maladie. Notre estomac gargouille, on est stressé, on mange moins. C'est tout des résultats, des conséquences au stress. C'est les choses qui prennent le contrôle de nos pensées. On est constamment tenté de s'inquiéter. Puis aujourd'hui, il y a mille et une raisons pourquoi s'inquiéter. Il y en a mille et une. On dirait que la société n'a pas fini d'en inventer. Ça n'arrête pas. Fait que ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps, puisque c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société, qu'on prenne le temps de s'arrêter puis qu'on regarde à une perspective biblique de l'inquiétude. Comment faire aujourd'hui pour ne pas s'inquiéter? Quand on dit ça, on a tout le verset qui vient dans notre tête qui dit « Faites connaître au Seigneur vos besoins par des prières et des supplications. » Faites connaître. On a tout le verset, hein? « Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez pas. » On a tout ça. Mais comment faire pour pas que ça se produise? Comment? Tournez avec moi dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 12. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, on est reconnaissant d'être ici ce matin. On est reconnaissant, Seigneur, de pouvoir regarder à ta parole, de s'y instruire, Seigneur Dieu. Père éternel, ce matin, dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous enseigner. Dispose nos cœurs, Seigneur, à se mettre en dessous de ta parole et de s'y soumettre, Père. Donne-nous, Seigneur, de se laisser toucher par ces vérités et puis de les mettre en application dans nos vies. Seigneur Dieu, on veut te remettre ce temps entre tes mains ce matin. Amen. Donc, Luc chapitre 12. Jésus ici est en train de parler à une foule. OK? Il est en train de parler à une foule, il parle de toutes sortes de sujets. Si on regarde au verset 13, Jésus s'adresse, il y a une personne qui vient lui poser une question, et puis il lui demande de faire la distribution entre l'héritage entre lui et son frère. Puis Jésus, il dit, je suis pas la personne pour faire ça, va vers les autorités, je suis qui moi pour faire ça? Puis après ça, il nous donne une parabole, la parabole du riche, de l'homme fou. Parce que cet homme-là avait amassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de biens, puis là, il était assis sous son steak, puis il dit, tout est dans mon grenier, tout est correct, et puis je peux vivre, il n'y a aucun problème, je suis en sécurité. Jésus, il dit, imbécile, ta vie, aujourd'hui même, va t'être redemandée. Puis pour qui, tous ces biens-là que tu vas t'avoir amassé, pour qui est-ce que ça va être? Tu es un homme pauvre, à mes yeux. Donc, Jésus ici parle directement du matérialisme. C'est clair, net et précis. Il parle du matérialisme. Chapitre, verset 22, Jésus se tourne vers ses disciples et puis il dit ceci. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ici, Jésus, il parlait à la foule, puis au verset 22, on voit qu'il se tourne vers ses disciples, ceux qui croient en lui, ceux qui ont la vie. Donc, Jésus ici s'adresse aux croyants. C'est clair, OK? Jésus s'adresse aux croyants. Puis ici, il nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas pour les éléments essentiels de la vie. Dans notre pays, c'est pas trop un problème. Ça me stresse pas de savoir si je vais avoir à manger ou non. On est dans l'abondance. Mais ici, Jésus utilise ces choses-là pour représenter les choses de ce monde. OK? On parle pas juste ici de choses essentielles, mais les choses de ce monde en général. Okay? Ne vous inquiétez pas. OK? Mais qu'est-ce que tu entends par ne vous inquiétez pas? De quelle inquiétude Jésus ici parle? L'inquiétude dont ici Jésus parle n'est pas cette attitude suivante où est-ce qu'on dit Hakuna Matata? Est-ce que vous connaissez tout Timon et Pumba? Hein? Hakuna Matata. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Faites-en donc pas. Hein? La vie va être ce qu'elle te réserve, puis inquiète-toi donc pas, puis prends-la comme elle vient, puis profite du moment présent, tu vas avoir du fun, c'est ce qui compte, puis Hakuna Matata. Ton passé, on s'en fout, puis le futur aussi. Vis ce qu'on vit aujourd'hui. Hein? Ce qui arrivera, arrivera. Ben là, Jésus dit, il nous encourage pas à avoir une attitude comme ça. Hein? Ces personnes-là s'inquiètent pas, parce qu'ils se foutent de tout. Hein? On vit quand même dans un monde sérieux, où est-ce qu'il y a des enjeux éternels. Donc, ne vous inquiétez pas, Jésus, il parle pas ici de Hakuna Matata, OK? De quelle inquiétude il parle? Il parle de celle-ci. Une constante occupation de nos pensées. Il parle ici d'une distraction de cœur avec les choses qui concernent notre condition humaine sur la terre. Les choses sur lesquelles nous avons pas ou peu de contrôle, OK? Une occupation constante de nos pensées. Une distraction de nos cœurs. Quelque chose qui nous envahit, qui prend le contrôle. En lien avec les choses qui concernent notre condition humaine. Notre bien-être. Est-ce qu'on va avoir ce qu'on a de besoin? Est-ce que j'ai ce que je désire? OK? Ces choses-là prennent le contrôle. Puis Jésus, il dit, c'est ça ici qui attaque. OK? C'est ça, Jésus, il dit, ne vous inquiétez pas. OK? Les choses qui prennent le contrôle de mes pensées. Est-ce qu'on a réellement un contrôle sur ça? Quand une situation arrive, bang, je réagis, je suis envahi d'une émotion. Est-ce que c'est moi qui ai choisi l'émotion qui sort de la situation? Est-ce que je suis au contrôle de mon émotion? Hein? Bref, est-ce que c'est possible faire ça? Est-ce que c'est possible? Si on regarde la société d'aujourd'hui, non. Mais en tout cas, on n'est pas encouragé à faire ça, puis c'est pas la norme. Mais la beauté de la chose, c'est que oui, on peut. Oui, c'est possible de pas s'inquiéter. Et puis Jésus nous donne le remède. Il nous le donne. C'est possible. C'est un mensonge de se laisser contrôler par ces émotions-là qui viennent nous distraire, envahir nos pensées. Puis Jésus, il nous laisse pas tout seul comme ça, il nous donne le remède. Il dit dans le passage que nous devons être convaincus de certaines choses pour être en mesure de ne pas s'inquiéter. Voici la première. Verset 22. 23, excusez. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Jésus ici est en train de nous dire, inquiétez-vous pas, parce que la vie est plus que ce qu'il y a sur la terre ici. La vie est plus que ce que vous allez posséder, plus que ce que vous désirez. La vie est plus que ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Jésus veut dire par « la vie est plus que ça » C'est quoi le but pour lequel Jésus nous a mis sur la terre? Le grand but de l'homme, le but ultime, c'est quoi? Chercher son royaume. Glorifier Dieu. De le connaître. De le glorifier et de prendre plaisir en lui. Le but ultime de Dieu, c'est ça. Tout le reste fait partie de ça. OK? Le but ultime de Dieu, c'est de le glorifier, de prendre plaisir en lui. Jésus, ici, c'est directement à ça qu'il fait référence. Ne vous inquiétez pas, la vie est plus que la nourriture. Qu'est-ce que vous allez porter? Qu'est-ce que vous allez boire? Votre but dans la vie est de me glorifier. Le but est spirituel et non physique. Jésus fait une grande distinction entre ces deux éléments-là, ces deux mondes-là. Okay? Le grand but de la vie est de glorifier Dieu. Ne cherchez pas les choses de ce monde. C'est pas ça le but de l'homme. Et puis ce que l'anxiété fait, c'est qu'elle nous pousse, elle pousse nos yeux, elle les prend, puis elle les tord. Il y a Dieu, puis l'anxiété, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient détourner nos yeux de Dieu, puis elle les attache où? Ici. C'est ça qu'est en train de faire l'anxiété. C'est une déviation. Elle vient nous aveugler sur le but que Dieu a pour nous. La vie est plus que ce qu'il y a sur la terre, mais l'anxiété nous y attache. Le stress nous y attache. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? C'est quoi la cause finale, dans le fin fond de la chose, là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'inquiète? Est-ce que c'est parce que les choses ne passent pas réellement comme je veux? Parce que j'ai pas le contrôle, puis là, il arrive des choses, puis là, s'il arrive ça, il va m'arriver ça, puis il va m'arriver ça, puis il va m'arriver ça, puis là, bang, catastrophe! Ah là, je vais tout perdre. Comprenez? C'est pour ça qu'on s'inquiète? L'inquiétude est une tentative inutile de prendre le contrôle sur quelque chose. C'est comme si on utilise l'inquiétude, on stresse, là, on prend nos pensées, on y réfléchit, on s'y apprête, on arrête, puis on dit qu'est-ce que je peux faire pour essayer que ça arrive, parce qu'il faut absolument pas que ça se produise. Puis là, si ça se produit, il va arriver ça, mais là, il faut pas que ça arrive là. Fait qu'est-ce que je peux faire pour que la vie, est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur ce qui va nous arriver? Si tantôt, là, il y a un avion qui nous tombe sur la tête, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour pas que ça arrive? Ben oui. On pourrait mettre une grosse cage en métal par-dessus l'église. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Hein? On peut pas avoir le contrôle sur ces choses-là. Est-ce qu'on a été fait? Est-ce que Dieu nous a fait pour avoir le contrôle sur ces choses-là? Est-ce que Dieu nous a fait pour avoir ce qu'on veut? Hein? Pour que tout se passe comme on l'a planifié? Hein? C'est-tu pour ça que Dieu nous a fait? Ou c'est de dire, peu importe comment, quand, peu importe où ce que tu travailles, donne-moi ta grâce, Seigneur, de te faire confiance, puis d'accomplir le but pour lequel tu m'as créé, te glorifier. Pourquoi m'inquiéter? Puis c'est ce que le verset 25 vient nous dire. On va le lire. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Une coudée, c'est à peu près 18 pouces. Qui, par ses inquiétudes, peut rajouter une longueur à sa vie? Qui a déjà dit, « Ah, je m'inquiète à la vie. » Non, c'est plutôt, « Je m'inquiète à mort. » Hein? L'inquiétude amène à rien de bon. Puis c'est ce que Jésus veut dire ici, là. Hein? Qu'est-ce que l'inquiétude a déjà amené de bon? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? C'est pas fou. Hein? Si on peut pas la moindre des choses, pourquoi s'y inquiéter? Au contraire, c'est parce que j'y peux rien et je m'inquiète. OK. Humainement parlant, c'est ça qui se passe. C'est parce que j'y peux rien que je m'inquiète. Mais ici, Jésus, il veut nous dire, regardez, pourquoi vous vous inquiétez, ça sert à rien. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. C'est l'une des vérités que Jésus veut qu'on soit convaincu. La première qu'on a mentionnée, c'est que Jésus veut qu'on soit convaincu que la vie est plus que les choses de ce monde. Que notre but dans la vie est de glorifier Dieu. Il faut qu'on en soit convaincu au plus profond de notre cœur. Il faut qu'on soit convaincu qu'on n'y peut rien de toute façon. On ne peut pas rien changer. Ce qui va arriver, va arriver. Ça ne rallongera pas à la durée de ma vie, de toute façon. Inquiétez-vous pas. Dieu veut qu'on en soit convaincu. L'inquiétude est inutile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans son amour, dans sa considération pour les paroles, qui je crois ne sont pas simples pour nous à entendre aujourd'hui, je ne crois pas plus dans ce temps-là non plus, Jésus nous dit ceci au verset 24. « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Verset 27. « Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? » Jésus ici nous encourage à regarder à la nature. Il fait un contraste entre le plus sale des oiseaux, le moindre, le corbeau, et puis il lui donne à manger. Après ça, il fait le contraste avec la fleur, qui elle est très belle. Et puis il nous dit, si ces deux choses-là, Jésus en prend soin, combien ne valez-vous pas plus que ça? Et c'est pour ça que Jésus nous donne ces exemples-là. Pour qu'on prenne conscience, regardez là, je suis votre Père. Je suis Dieu. Vous êtes mes enfants. Je vous ai créé à mon image. J'ai envoyé mon Fils sur la croix pour vous. Parce que je vous aimais. Je prends soin de ma créature, ma création, des animaux, de la nature. À combien plus forte raison je vais prendre soin de vous qui êtes mes enfants. Vous avez tellement plus de valeur que toutes les autres. Ces vérités-là, on a besoin d'en être convaincu. Ça doit être ancré au plus profond de notre cœur. On est précieux. Dieu prend soin de nous. Et puis Dieu va pourvoir. Verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Inquiétez-vous pas de ces choses-là. Je sais que vous en avez besoin. Puis vous le savez que je suis là. Vous le savez que je suis présent. Est-ce que c'est donné à tout le monde de savoir ça? Est-ce que c'est donné à tout le monde de savoir que Dieu nous aime? Que Dieu prend soin de nous, qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce qui va nous arriver demain, si on va perdre notre job, si on va être capable de payer nos factures, qu'est-ce qui va arriver avec nos enfants, si je fais un accident d'auto demain. Est-ce que c'est donné à tout le monde de savoir que la vie est plus que ça? Non, malheureusement. Verset 30, c'est ce qu'il nous dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. » Et puis vous, votre Père, sait que vous en avez besoin. Puis vous savez que Dieu est là. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas conscience, n'ont pas confiance, ils n'ont pas d'espérance. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent sans Dieu, sans espérance, sans espoir. Soyez pas comme les gens du monde, qui vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Parce que vous, vous savez que Dieu existe. Nous, on sait que Dieu existe. Et puis, c'est supposé faire une différence. C'est supposé faire une différence dans nos vies. Parce que si on connaît Dieu, on connaît l'amour qu'il a eu pour nous. Puis on sait que Dieu va prendre soin de nous, parce qu'il nous le promet dans sa parole. Puis pour s'y encourager, on a la nature comme exemple. Puis comment on a plus de valeur que ces choses-là? OK. Je cherchais pas les choses de ce monde. Maintenant, quoi? C'est quoi la suite? Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un élément clé ici, contre l'anxiété, contre le stress. Prenez vos yeux qui sont rivés là, puis amenez-les là. Amenez-les là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. J'aimerais vous montrer la profondeur du mot « rechercher ». Jésus l'utilise 3 fois. Avez-vous remarqué? Il dit, verset 29, « Ne cherchez pas ce que vous mangerez et boirez. » Après ça, verset 30, « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. » Puis après ça, verset 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu. » Dieu, Jésus utilise ce mot-là 3 fois, parce qu'il est très important. L'implication du mot « rechercher », c'est que la recherche implique l'orientation fondamentale de notre vie. Ce que l'on recherche, c'est ce sur quoi on se concentre. C'est ce qui a le contrôle de notre cœur. C'est ce qui a le contrôle de nos pensées. On s'y applique, on le recherche, on le poursuit. Qu'est-ce que tu recherches? Vers quoi t'enlignes ton cœur? Sur quoi est-ce que tu focuses ton cœur? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? C'est quoi tes buts majeurs? Qu'est-ce qui détermine la façon que tu vas dépenser ton temps et ton argent? Qu'est-ce qui te guide ou qui dirige les décisions que tu as à prendre dans la vie? Les importantes comme les moins importantes. Pourquoi est-ce que vous vivez? C'est ça que le mot « rechercher » implique. C'est l'orientation fondamentale de ce qui nous habite, de ce qu'on est. C'est notre préoccupation. Ce mot-là est très puissant. Puis il nous dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ce qui implique, là, cherchez-le, courez après d'une façon sincère, intense, focussez, chassez-le, courez après. Chassez les choses du royaume de Dieu. Comme le chasseur qui est dans son arbre, qui va attendre pendant des heures que le chevreuil se présente devant lui. Il l'attend. Cherchez-le. Courez après les choses de Dieu. Comment est-ce qu'un athlète court après son but, qui est la médaille d'or olympique? Leur vie, c'est incroyable. C'est discipliné du coucher, du lever jusqu'au coucher, là. Tous les aspects de leur vie est atteint par leur sport. Ce qu'ils vont manger, leur horaire, même où est-ce qu'ils vont rester est en conséquence de ce sport-là. Tous les aspects est concentré vers ce sport-là pour atteindre le grand but. Un grand directeur d'entreprise, il vit, il mange, il dort, il boit pour son entreprise, pour son succès. Tout ce qu'il peut faire pour que son entreprise grandisse puis réussisse, il va le faire. Ça l'habite. Il court après ces choses-là. Recherchez Dieu avec tout votre cœur. Recherchez-le avec tout votre cœur. Prends nos yeux, les emmenez là. C'est clé. C'est clé. Quel est notre plus grand désir dans la vie? Les choses pour lesquelles on soupire le plus. Est-ce que ces choses-là ont un lien avec l'Évangile de Christ? Est-ce que c'est que ce qui nous habite, c'est est-ce que vous voulez être plus comme Christ? Que nos voisins, nos enfants, nos coéquipiers, toutes les nations du monde viennent qu'à le connaître. Est-ce que c'est ce qui nous habite? Est-ce après ces choses-là que notre cœur soupire? Qu'est-ce qui motive nos actions? Est-ce que c'est l'amour de Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'amour de Jésus-Christ qui motive nos actions tous les jours, dans tout ce qu'on fait? Qu'est-ce qui détermine la façon qu'on occupe notre temps ou qu'on occupe notre argent? Est-ce que c'est pour l'avancement de l'Évangile dans le monde? Est-ce qu'on donne sacrificiellement pour l'avancement de son royaume? Est-ce qu'on est prompt à dire, Seigneur, utilise ma maison, utilise mon auto, utilise mon temps, utilise mes talents, utilise tout ce que j'ai pour ton service. Utilise tout. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie? Parce que ça, c'est un bon indicateur de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on répand notre cœur devant Dieu pour le ministère, pour l'avancement de son royaume, pour la conversion des perdus, pour l'avancement de son royaume? Est-ce qu'on prie? J'aimerais vous poser une question. Un autre. De quelle façon votre vie serait différente si vous ne seriez pas chrétien? Dans le plus basique de ce que vous êtes, de ce qu'on l'on est, dans le plus profond de notre cœur, est-ce qu'il y a réellement une différence? Est-ce qu'il y aurait une différence? Si la réponse au plus profond, dans le plus basique de ce qu'on est, c'est non, on a besoin de demander à Dieu que par sa grâce, par son esprit, vienne qu'à amener notre cœur à réellement chercher les choses de son royaume. Parce que chercher le royaume de Dieu en premier signifie que dans le niveau le plus fondamental de nos vies, on a fait un virage à 180 degrés. Un virage à 180 degrés qui nous amène à ne pas rechercher ce que toutes les nations du monde recherchent aujourd'hui, les choses de ce monde. C'est un changement qui est fondamentalement différent des gens du monde. 180 degrés, dans le plus profond de nos cœurs, vers le royaume de Dieu. Cherchons le royaume de Dieu. Puis quand on fait ça, il y a une promesse merveilleuse qui s'y rattache. Le Seigneur est tellement bon. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 31. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Faites ces choses. Puis je vous garantis que je vais être là, puis que vous ne manquerez de rien. Oui, Jésus ici est en train de dire que je n'ai aucune raison en tant que croyant de m'inquiéter. J'en ai aucune. Aucune. Peu importe l'excuse qu'on va s'inventer, on n'en a aucune. Faisons confiance au Seigneur. Cherchons les choses de ce royaume. Cherchons les choses de son royaume. Tournez les yeux vers le Seigneur. Tournons les yeux vers le Seigneur. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Puis en conscience, en étant conscient que ce qu'il est en train de dire là est loin d'être simple, Jésus nous rassure encore une fois au verset 32. Il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Ne crains point. Ne crains point. On a un Dieu rempli de grâce, rempli d'amour, qui est merveilleux. Ne crains point, petit troupeau. C'est nous. Puis le royaume que Dieu nous donne, le royaume qu'on doit rechercher, il est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Un amour infini, une sainteté infinie, une pureté infinie, d'une richesse qui est durable, une richesse qui est éternelle. C'est ce royaume-là que Dieu a jugé bon de nous donner. Plus qu'on considère ces choses-là, le royaume que Dieu nous donne, plus qu'on a les yeux rivés là, on regarde ce qui est en bas, on regarde ce qui est en haut, on regarde ce qui est en bas, on veut plus regarder ce qui est en bas. Plus qu'on va comprendre, mes frères, mes sœurs, cette vérité-là profonde, plus qu'on va comprendre ce que Dieu nous donne, ce que Dieu a fait dans nos vies, la grandeur de son œuvre, plus qu'on va considérer ces choses-là, plus qu'on va voir les choses de ce monde comme étant rien, parce qu'elles sont rien. Ça ne veut pas dire que Jésus va tout nous donner avec abondance là, sur la terre. Là. Ça ne veut pas dire que c'est correct, je vais pouvoir je vais être millionnaire parce que Jésus dit qu'il va nous donner tout si je le recherche. Fait que je le recherche, puis là, je vais avoir en abondance de tout. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Là. Okay? Jésus, ici, il ne condamne pas la richesse non plus. Là. Il est en train de dire, là, ce qu'il est en train de parler, c'est l'orientation de nos cœurs. Il dit qu'il va prendre soin de ce qu'on a de besoin, ce qu'on a réellement de besoin. Si dans sa grâce, il juge bon de nous donner avec abondance, c'est une grâce qu'il nous fait. Puis on est dans l'abondance ici aujourd'hui. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est une grâce. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est très important. Jésus ne veut pas condamner la richesse. Ce qu'il veut parler ici, c'est l'orientation de notre cœur. L'orientation de notre cœur. Vers quoi on tourne notre cœur? Est-ce qu'on court après les richesses de ce monde ou on court après les richesses de Dieu? C'est clé dans l'inquiétude. Si vous ne voulez pas vous inquiéter, être anxieux, tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur. Pour vous amasser un trésor, verset 33, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne dérobe point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le royaume que Dieu nous donne ne périra jamais. Plus qu'on a les yeux tournés vers ça, après ça, verset 33, il peut nous amener à voir que Jésus est contre la richesse, mais c'est pas le cas. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point un trésor inépuisable dans les cieux. Donc, il est en train ici de dire, là, un cœur, OK, qui est convaincu que Dieu va pourvoir, un cœur qui est tourné vers le Seigneur, va être un cœur qui est généreux. Ça va être un cœur qui est généreux des choses, des bontés que Dieu lui donne, de la grâce que le Seigneur lui fait. Il verra pas ses biens comme étant ses possessions. Il en est un administrateur. C'est des choses que Dieu lui donne par sa grâce. Ils ne nous appartiennent pas, puis c'est des choses qui sont pour son royaume. On n'est pas propriétaire. On est des administrateurs de ce que Dieu nous donne. Puis on prend ce que Dieu nous donne. Puis on le glorifie avec ce qu'il nous donne. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La pensée d'une personne, ses idéaux, ses inclinaisons, ses actions, ses désirs sont attirés par son trésor. Si ton trésor principal est de ce monde, les finances, notre famille, nos enfants peuvent faire partie du trésor qu'on a de ce monde. Ça va jusque-là, pas juste les possessions. Nos enfants aussi. Si c'est ces choses-là qui prennent notre préoccupation, ben notre cœur va être aligné vers les choses de ce monde. Mais si on se concentre sur notre relation avec le Seigneur, chercher à glorifier, peu importe notre situation, dans la maladie, dans la santé, dans la richesse, dans la pauvreté, le Seigneur nous promet ici qu'on va être libéré de l'anxiété, libéré du stress. Parce qu'on va se détacher du monde pour s'attacher aux choses de Dieu qui sont ô comment plus grandes et plus merveilleuses. Ces vérités-là sont profondes. Je ne dis pas qu'elles sont simples et faciles à appliquer. Vraiment pas. Mais c'est possible. Recherchez le Seigneur avec tout votre cœur. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur, avec passion, avec zèle, avec engouement. Détachez-vous, détachons-nous des choses de ce monde. Parce que la vie est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. J'espère que ces paroles-là tombent dans vos cœurs aujourd'hui comme une paire des paroles d'encouragement. Et non comme un fardeau. Ça, c'est vraiment pas mon but. Demandez au Seigneur dans vos vies. Demandez-lui d'intervenir puis de venir travailler vos cœurs. Il va le faire. Quand Dieu entend une prière comme ça, il dit « Oh que oui! » Oh que oui, je vais le faire. Oh que oui! Si vous voyez que votre cœur est aligné vers les choses de ce monde, par grâce, faites-le pas par vos propres forces. Demandez au Seigneur de venir puis de le faire. Cherchez le royaume de Dieu. Dieu va pourvoir. Mettez-vous à genoux, répandez vos cœurs. Repentez-vous. Demandez au Seigneur de venir travailler dans vos vies. Il va le faire. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il va le faire. Et oh comment c'est bon. Après. Demandez-le. Allons devant Dieu. Ô Seigneur, comment est-ce que tu es grand? Ton amour dans le passage, Seigneur, un passage qui est pas facile à entendre pour nous aujourd'hui, qui... Le stress est partout, Seigneur, et omniprésent. Il y a tellement d'amour dans ce passage-là. Tellement des grandes promesses. Seigneur Dieu, tu nous as promis ton royaume. Tu nous as donné ton royaume. C'est pour ça, Père, que tu nous demandes de chercher les choses d'en haut. Parce que la vie est plus que le vêtement, ce qu'on va boire, ce qu'on va manger. Merci, Seigneur, d'être là. Puis de nous emmener à vivre ces promesses-là. Travaille nos cœurs, Seigneur. Amène-nous à les répandre devant toi, Seigneur, pour qu'on se tourne vers les choses qui ont une réelle valeur. Les choses éternelles. Seigneur Dieu, brise nos cœurs qui sont rebelles. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais ce travail-là. C'est au-delà de nos forces. C'est contre notre nature, Père. Merci d'être là. Sois loué, Seigneur Dieu. Sois loué. Ton amour est grand. Et je veux pas vivre autre chose d'autre, Seigneur, que d'être en ta présence puis de goûter à ton amour tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur. Sois loué. Amen.